Entretien avec Chantal Leguay-Gilbert, iconographe, deuxième partie. Dans ce deuxième moment de notre entretien, Madame Leguay-Gilbert donne des précisions techniques sur la production de l'icône, mais elle fait aussi la description détaillée d'une grande icône byzantine qu'elle appelle ici icône de la Vierge Passepholipe, qu'elle a elle-même reprise et qui figure sur la page d'accueil de son site, dont je rappelle l'adresse www.ateliersaintsergederadonnege.fr.
Alors, avançons un petit peu. Et là, dans les questions justement plus concrètes, dans la production elle-même, quelles sont les étapes principales, hein, de l'écriture d'une icône? C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas?
Alors, je vais vous avouer que moi, je ne l'utilise pas, cette expression.
Ah oui.
Je suis un peu gêné parce que vous prenez le terme, comment dire, il se trouve qu'il y a cette ambiguïté du terme et en grec et en russe. En russe, on va utiliser le verbe pisat pour dire écrire, mais on va l'utiliser aussi pour dire peindre. Il y a pichu icône, c'est. Personnellement, quand je l'entendais à l'école, je traduisais toujours par peindre une icône. Mais je ne suis pas d'une logique extrême parce que si je parle toujours de peindre des icônes, je parle en même temps de lire les icônes. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la lecture d'une icône et du décodage de l'icône, parce qu'elle a besoin d'être expliquée. Bon, bien sûr, elle interpelle celui qui la regarde, mais il ne la comprend pas forcément et il faut le guider pour qu'il rentre dans le message qui est livré.
Oui.
Donc, vous voyez, ma
Oui.
logique, elle ne va pas jusqu'au bout.
Mais tout à l'heure, je vous ai entendu parler de traduction.
Oui.
Vous disiez, j'ai traduit l'Anastasise, par exemple, ou... C'est une manière, peut-être, c'est un bon compromis. Alors voilà, bon, bah, la question était très, disons, prosaïque. Quelles sont les étapes principales, hein, peut-être pas dans
Alors les
les
étapes,
étapes.
c'est d'abord de préparer son bois. On choisit. Généralement, on utilise un bois léger comme le tilleul, parce que les icônes peuvent atteindre des poids importants, surtout quand elles sont très hautes. J'ai été, pour ma part, très impressionné en Russie par la taille des icônes de Roubliov. Il y a une au musée, à la galerie Tretiakov, vous avez une Daisis dont les planches font en moyenne 3,20 m de haut. Donc vous voyez un peu le poids de planches qui font 3,20 m de haut. Les personnages sont gigantesques. La planche, je pense qu'elle doit faire facilement 7 ou 8 cm d'épaisseur. Elle a de grosses traverses, mais c'est très lourd. Alors le tilleul a l'avantage d'alléger un peu cet ensemble. On évite autant que possible les bois qui ont tendance à éclater, comme le chêne. Bon, ça m'arrive quand même d'en utiliser parce que j'aime utiliser les vieux bois qui ont un vécu. Mais non, sinon on essaie avant tout le tilleul. Ou si on veut utiliser des résineux, il faut qu'ils aient séjourné longtemps dans l'eau, dans une rivière par exemple qui court, qu'ils soient détanés beaucoup. Ces bois, il faut qu'ils soient vieillis. J'utilise généralement du tilleul de 30 ans. C'est des arbres coupés depuis longtemps qui ont eu le temps de sécher et qui vont être assez stables. Ensuite, donc, il faut l'entoiler. Alors, avant l'entoilage, bon, il a fallu évidemment la découpe en fonction de ce qu'on désire peindre. Et il faut préparer de la colle de peau, parce que cette colle qui est très, très dure, très forte, c'est une des colles les plus fortes que l'on connaisse. Elle demande une préparation. Évidemment, il faut faire gonfler les plaques de colle de peau dans de l'eau, les faire fondre une fois qu'elles ont bien gonflé pendant 24 heures. On obtient une colle qui va être très facile à manier à partir du moment où elle est tiédie et qui va donner une grande dureté à la surface. On la mélangera, cette colle, progressivement avec de la poudre de. Soit avec du blanc de Meudon, soit de la poudre de marbre, enfin avec une charge minérale. Et on passera donc, disons, en gros, selon les bois et l'épaisseur des bois, entre 7 et 15 couches de stuc en croisant les couches. Au tiers de l'évolution, on fera un tannage au formol pour éviter les fermentations ultérieures. Et ensuite, après 2 mois de séchage de la planche, on pourra la poncer pour obtenir une surface lisse comme de l'ivoire, sur laquelle on gravera avec une pointe, on gravera le dessin que l'on désire ensuite peindre. Et on fera ce qu'on appelle l'ouverture de l'icône. L'ouverture consiste donc à poser ses premières touches de peinture. Alors il y a différentes techniques. Certains vont faire une sorte d'aquarellage des masses colorées. En Russie, on travaille plutôt d'abord cette ouverture en utilisant des terres très claires, parce que les icônes étant souvent destinées aux églises, on pense qu'appliquer une couche d'ocre jaune ou d'ocre rouge très pâle en dessous de l'icône va permettre au stuc de jouer un rôle réflecteur plus grand ensuite quand il se retrouvera dans l'obscurité de l'église. Mmh. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études, disons, mmh, pour voir si, mais c'est une tradition chez eux. Mmh. Et ensuite, eh bien, on va avancer très, très lentement, les couches avancent très lentement. C'est par la superposition de couches très fines, de couches colorées très fines, qu'on va monter ces couleurs. On part du plus foncé, donc on part toujours du sombre vers la lumière, on fait toujours ce qu'on appelle la montée vers les lumières, mmh, et les éclaircissements du visage sont les plus importants avant qu'on porte donc les lumières finales, ces petits traits blancs qui encadrent les yeux, qui soulignent le nez, la bouche, mmh, et qui donnent vraiment la vie au visage que l'on peint.
D'accord.
Oui. Pas question ici, par contre, de faire comme le feront les peintres profanes, qui mettent de la vie dans le regard par la petite touche blanche. Mmh. Non, ça n'existe pas, mmh, surtout pas. Et tout va être répondre à des règles canoniques, la forme d'un nez, la forme d'une oreille, la forme d'une bouche, même la forme d'un œil. On ne fait pas un œil rond de poule, on va faire un œil plutôt ballon de rugby, mmh, disons.
C'est oriental.
Oui, oui. On ne ferme pas, mmh, l'œil non plus, il y a un certain nombre de règles à respecter. Mmh. Et après, il y a un temps de séchage de l'ensemble, parce qu'on peint donc avec de la tempéra. La peinture à la tempéra, c'est tout simplement du pigment qui a été dilué dans un mélange de jaune d'œuf battu dans, mmh, de l'eau avec quelques gouttes d'alcool pour empêcher la fermentation, de vinaigre, d'alcool. Mmh. Et on applique en moyenne, moi je calcule à peu près 30 à 40 couches successives, avec des glacis pour nuancer un peu ces couleurs, leur donner un petit peu plus de vie. Et on termine par les écritures, bien entendu. L'icône existe grâce à ces écritures qui signalent ce qu'elle est. On ne les signe pas, ces icônes. On peut porter son nom au dos, dire de la main d'eux, mais on ne signe pas une icône. Sauf aujourd'hui, en Grèce, où les iconographes ont pris l'habitude de signer parce qu'ils se sentaient menacés par les nombreuses copies, souvent d'ailleurs de simples décalcomanies retravaillées. Ils se sont sentis menacés par là, donc ils préfèrent signer leurs icônes maintenant. Mais oui, ça n'est pas dans la tradition iconographique, ça, mm-hmm, signer. Justement, le peintre doit être oublié.
Oui. Oui, d'accord. Alors, je pensais à quelque chose là en passant. Vous faisiez référence aux traits des visages qui sont souvent impassibles, à la limite de la sévérité. Alors, notamment dans une des représentations du Christ, oui, du Christ terrible.
Oui.
Le spectateur, entre guillemets, ou le croyant en général occidental, n'est plus peut-être habitué à cette sévérité. Et néanmoins, vous semblez y tenir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça, qu'il y a une austérité, ça manque, d'allégresse, de légèreté?
C'est la réflexion que je citais tout à l'heure de l'évêque, c'est-à-dire que ça n'est pas de la tristesse, c'est de la gravité, parce que l'icône parle de choses sérieuses, et qu'elle entend bien qu'on conserve justement cette gravité. Beaucoup d'icônes tournent autour du sacrifice du Christ. Après tout, la mort n'est pas... La mort de quelqu'un sur une croix n'est quand même pas un sujet très... Oui. Très facile à aborder. De la même manière, si on trouve la Vierge, on se dit, mais c'est une Vierge à l'enfant, elle n'a pas l'air d'être en train de jouer avec son enfant, elle semble triste, mais c'est justement la gravité d'une femme qui sait que son fils est destiné à la mort. Mm-hmm. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement rude de vivre auprès d'un enfant en sachant que cet enfant est destiné à connaître une mort atroce. Mm-hmm. Même s'il y a une résurrection derrière, il n'empêche qu'il faut quand même passer par cette case du supplice.
Oui. Alors j'y pense, là, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais j'entendais un Libanais me dire, au fond, c'est pas très intuitif, parce que en Occident, il y a une tradition un petit peu doloriste. Alors il me disait, au fond, les orthodoxes, c'est le dimanche de Pâques, les catholiques orientaux, c'est le samedi saint, et vous, les Occidentaux, c'est le Vendredi Saint. Et là, effectivement, on peut penser à Grünewald. On est peut-être un peu sorti de ça, mais il y a quand même peut-être une volonté dans l'Occident de sortir peut-être d'une spiritualité.
Le Christ auquel vous faites allusion, il est redoutable.
Oui.
Mon Dieu.
Oui, donc ça
c'est
existe
déjà
aussi.
Presque l'image de la putréfaction.
Oui.
C'est terrible.
Il est presque vert.
Ah oui, il est. C'était un grand choc pour moi de le voir. Ouais. Alors que là, non. D'ailleurs,
là, on n'est pas dans le dolorisme.
Non. On n'est pas dans le dolorisme. Et où ça m'a frappé surtout, c'est dans une icône dont, que vous n'avez pas trop vue, je pense, c'est l'icône de la Vierge Pafsolip. C'est une icône qui est très peu connue, une icône du XIVe, une icône byzantine, que j'ai découverte simplement grâce à Internet, au moment où elle est sortie de l'école de théologie turque dans laquelle elle est, sur une île au large de dans la mer de Marmara. Et elle en est sortie pour une exposition sur Byzance au tout début du siècle. Là, je crois que c'est 2001, je crois, 2003, je ne sais plus. Il y a eu un cycle de trois expositions sur Byzance, et elle a été, disons, une des œuvres majeures d'un des volets de cette exposition. Je ne l'avais jamais vue avant, elle n'est pas dans les livres. J'ai donc, à l'époque, eu une très forte envie de la peindre, sans savoir vraiment ce qui m'interpellait en elle, mais il y avait quelque chose qui me semblait profondément joyeux dedans. Et si vous la regardez bien, alors d'abord, il y a une palette qui est extrêmement colorée et rare, au point de vue couleur, puisqu'il y a une palette de roses indiens, entre autres. Ce sont des roses qu'on obtient, je ne savais même pas comment les obtenir, puisqu'on ne l'utilise pas habituellement en icône. C'est tout simplement des roses d'hématite. Donc l'hématite jointe au blanc vous donne cette palette de roses indiens qui est assez étonnante. Donc on a des roses, on a des rouges vifs, on a des bleus qui sont très vifs eux aussi, et sinon un peu d'ombre naturelle, un peu d'ocre jaune. Donc une palette quand même assez colorée. Et j'ai commencé à la peindre, et c'est en la peignant d'abord que j'ai découvert tout ce que l'iconographe avait voulu faire passer avec dans la construction, parce qu'elle a une construction extrêmement complexe, et qui, curieusement, avant même qu'un de nos papes n'ait eu l'idée de classer les mystères en mystères joyeux, mystères glorieux, mystères lumineux, eh bien lui, il la propose, cette classification, par rang. Et ça, c'est assez étrange. Et c'est en la peignant que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de curieux. Et ce qui faisait que l'impression dominante était une impression de joie profonde, c'était qu'au fond, vous aviez regardé la ligne du haut, puisque ce type d'icônes complexes, ce qu'on appelle des icônes Gitier, elles se lisent comme des BD. On commence en haut à gauche, on va vers la droite, et ensuite on descend, et on descend vers le bas. Donc, on ne tourne pas autour, on descend de ligne en ligne. Vous avez donc d'abord une annonciation, puis une nativité, une présentation de l'enfant au temple, on est donc dans les mystères joyeux. Ensuite, vous passez aux mystères lumineux qui ont été classés de deux façons. C'est-à-dire que vous avez d'abord la révélation de la personne du Christ, d'abord dans le baptême par Jean-Baptiste, c'est-à-dire une révélation qui s'opère dans l'intimité d'un tout petit groupe. La seconde scène à droite, c'est une transfiguration. Pareil, quelques apôtres, même pas tout le groupe d'apôtres. Après, vous avez la révélation, mais cette fois-ci en public, avec un miracle, la résurrection de Lazare, une foule, et de l'autre côté, l'entrée à Jérusalem, une foule. Et quand vous passez à la ligne du bas, vous voyez une résurrection, une ascension, une dormition de la Vierge. Et je me suis dit, c'est pas possible, il manque quelque chose. On est maintenant dans les mystères glorieux, mais il manque les douloureux. On est passé de l'entrée à Jérusalem à la résurrection, sans passer par la case crucifixion. Et la clé du mystère, je l'ai eue après, c'est que cette icône, elle est exposée comme ça, dans une immense chasse, et en réalité, à l'arrière, il y a une très grande crucifixion, splendide, qui est peinte, et que je me sentirai évidemment maintenant obligé de peindre.
Ah oui.
Elle est encadrée de prophètes. Elle est d'une force, et c'était au fond pour vous obliger à ne regarder qu'un truc. Lorsque vous regardez l'icône normalement, vous êtes dans la joie du message christique, qui est après tout un message plutôt sympathique, parce que aimez-vous les uns les autres, et puis ce message, disons, de tolérance, d'accueil de l'autre et tout. Et puis, quand vous êtes de l'autre côté, la clé de tout, c'est ça, c'est le sacrifice. Mais quand vous regardez le sacrifice, vous le prenez en pleine figure, vous ne pouvez voir que ça. Et ça sera pour la semaine pascale, et ensuite, on retourne l'icône, et on revient à la gloire de la résurrection. Et j'ai trouvé vraiment très forte. Et dans la construction, tout est fait pour renforcer ça. Vous avez un axe central qui passe toujours par la mère et le fils, c'est-à-dire la nativité, la grande Vierge à l'enfant central, et en dessous, la Vierge qui est dominée par son fils dans une sphère céleste au moment de l'ascension. Et vous retrouvez, alors, quelque chose qui est intéressant aussi en iconographie, dont on parle peu, c'est les mandorles. Voilà, ce qu'on appelle la mandorle, donc c'est ce que vous trouvez pour la transfiguration, ce que vous trouvez pour l'anastasis, la résurrection. Et je trouve que la station internationale m'a fourni une excellente image pour comprendre ce que c'était. Parce que quand vous voyez les vaisseaux qui arrivent sur Mir, les vaisseaux viennent se coller à l'extrémité d'un sas qui va permettre de communiquer. Il faut rentrer dans le sas, refermer le vaisseau pour pouvoir pousser la seconde porte qui, elle, communique avec la station. Et bien, c'est exactement ça. La mandorle, qu'on appelle comme ça parce qu'elle a effectivement une forme d'amande, la mandorle, c'est le sas qui permet de communiquer entre le monde terrestre et le monde céleste. Et vous trouverez toujours le Christ au centre du sas, parce que le Christ est le passeur qui amène les hommes, qui par le rachat et tout, ramène les hommes du terrestre dans le céleste. Et je trouve que ça fait une image très forte, parce que vous retrouvez, en plus, des constructions triangulaires entre les grottes et les mandorles et tout, qui vraiment montre à quel point l'iconographe, là, a travaillé son sujet pour arriver à livrer le message, là, de la force de la crucifixion, de ce qu'elle représente. Oui. Il y a toujours, disons, une théologie derrière. L'icône ne cherche pas à faire joli, à faire un passion, beau panneau décoratif.
Oui. La passion est un mystère à part, on peut dire.
Tout à fait.
Mais est-ce que le Christ en croix dans la tradition orthodoxe? J'en vois pas trop dans votre atelier, là, mais...
Non, j'en ai juste un là-haut.
Oui. Est-ce qu'il est déjà en gloire? Parce que...
Non, il est représenté avec la Vierge et Jean au pied de la croix, en douleur. Et sinon, il y a un thème très beau que je n'ai jamais représenté, mais que je rêve de faire. Mais si, pour qu'il soit beau, il faudrait le faire sur une très grande planche. C'est la mise au tombeau, donc le traîne, qui est souvent une très très belle icône, mais c'est une icône très très douloureuse aussi. C'est vrai que... Mais c'est un motif... C'est vrai que les crucifixions, je suis en train de réaliser...
Peut-être pour la prochaine Pâque.
Ouais. Non, c'est une icône... Je voulais absolument la peindre, parce que cette icône, les gens ne peuvent pas la voir. Et justement, les icônes, habituellement, vous voyez bien, la Trinité de Roubioff, tout le monde la connaît. Tout le monde a eu l'occasion de rentrer dans une église où il y avait une reproduction de cette Trinité. Mais la grande Vierge Pafsolide, personne ne la connaît. Et je me suis dit, si... En plus, je sais qu'en ce moment, ils ont des problèmes. Erdogan les a encore fait pilonner il y a quelques mois, parce qu'ils ne supportent pas la présence de cette école théologique. Et je me suis dit, mais si elle est détruite, c'est tout un message aussi là, qui disparaît, c'est dommage, et c'est pour ça que je voulais absolument la peindre. Oui. J'ai mis 8 ans à la peindre. Ça a été vraiment un très gros travail de recherche et tout autour, parce qu'elle n'est pas dans les livres et que je n'ai pu partir que de mauvaises reproductions qui m'ont imposé un gros boulot. Mais je ne regrette pas, parce que j'ai l'impression de pouvoir garder le témoignage d'une réflexion théologique qui est quand même très profonde avec elle.
C'est-à-dire d'où l'intérêt de l'écriture, de la réécriture,
c'est
de la traduction.
C'est ça, de la transmission.
Puisque ça maintient vivante une tradition ancestrale,
quelles
que soient les barbaries, effectivement.
Tout à fait.
Alors, je vous embête encore, mais combien de temps, du coup, pour une icône? Alors, une icône de format...
Évidemment, une trente comme celle-là, 8 ans, c'est avec autant de travail sur livre et tout que de travail de peinture. Le travail de peinture ne peut se faire qu'à partir du moment où le travail, disons, intellectuel autour de l'icône, et puis le travail, disons, de... Enfin, je dis intellectuel, mais je devrais plutôt dire spirituel, autour a été fait. Et ça prend quand même beaucoup de temps. Mais de travail purement technique, on estime qu'une petite icône, vous voyez, les très petites icônes, c'est une quarantaine d'heures si vous tenez compte à la fois de la préparation du bois, de la pose de l'or, tout ça c'est très long, et des couches multiples. Mais en moyenne, il faut qu'on... une petite icône comme ça, enfin, disons 40 heures, c'est pour une icône de cette taille-là, une icône qui va faire 20 cm, bon, on va être de l'ordre de 100. 120 heures.
Oui. Et vous faites abstraction là du temps de séchage
je compte pas le temps. Là, c'est uniquement le temps vraiment où je travaille sur la planche.
Voilà. Parce que pour l'anecdote, quand même, avec des amis, on a disons solliciter votre talent, puisque on vous a fait la commande d'une icône, dont j'en dis pas plus parce que c'est un peu un cadeau qu'on n'a pas fait encore. Mais ça a pris quand même plusieurs mois.
Oui, c'est ça. Il faut plusieurs mois parce que déjà, en plus, vous vouliez, disons, un thème qui n'existait pas et qu'il fallait composer. Donc il fallait se mettre d'accord sur vos attentes. Il fallait que vous arriviez à exprimer très clairement vos attentes, que moi j'arrive à les traduire ensuite en dessin. Et puis qu'on voit, enfin qu'on se mette d'accord.
Et que ces attentes ne soient pas incompatibles avec les fameuses contraintes.
C'est ça, parce que là, et après, j'avais mes blocages qui étaient liés effectivement à mes exigences iconographiques, mon obéissance. Et puis après ça, il y avait le travail technique proprement dit, les temps de séchage qui sont longs, qui rallongent encore. Mais sinon, effectivement, on est à 200 heures, quoi, à peu près.
Alors ceci dit, manifestement, il est possible d'être, disons, un petit peu inventif, au sens où on peut conjoindre deux figures qui n'ont jamais été représentées ensemble. En l'occurrence, c'est le cas, mais vous m'avez dit que pour, par exemple, des mariés, on pouvait représenter les deux saints patrons.
C'est ça, les deux saints patrons encadrant, par exemple, une icône de mariage. Mm-hmm. Bon, certains peuvent choisir comme icône de mariage un Christ, simplement. D'autres prennent un thème fréquent, c'est celui de la rencontre d'Anne et Joachim à la Porte Dorée. Mm-hmm. Et donc là, on peut très bien faire une bordure sur laquelle, ou les présenter en petit en dessous, comme on le faisait autrefois, vous savez, quand on représente les donateurs en petit au pied d'un tableau, quoi. Donc là, ça se fait aussi en iconographie. C'est très fréquent. Quand vous voyez des icônes anciennes avec un petit personnage représenté en bas, à gauche, à droite, ce sont souvent les donateurs.
Oui. Enfin, on voit à quel point c'est compliqué, disons, de créer de toutes pièces, parce que imaginons, vous me disiez qu'il n'y avait pas de représentation iconographique de Jeanne d'Arc ou de saint un petit peu récent, mettons Saint Vincent de Paul, vous voyez. Bon, pourquoi pas faire une icône, mais enfin là ça demanderait presque un travail plus exigeant encore.
C'est à dire qu'il faut d'abord travailler, il faut connaître la vie du saint que l'on désire représenter. Il faut la connaître. Alors aujourd'hui, dans des époques où nous avons déjà, quand vous parlez de saints plus récents pour lesquels on a des représentations, soit des tableaux, soit des... Oui, je me laisse parasiter parce que j'ai une création justement derrière, je vous la montrerai. Où on a des sculptures, où on a des photos. Bon. À partir du moment où on a des photos, on respecte justement les données de la photo. Donc on va retraduire, bien entendu, on va lui refaire un nez iconographique, mais globalement vous reconnaîtrez la silhouette. De la même manière que la plupart des personnages qui ont été connus, Comment savait-on à quoi ressemblait le Christ, à quoi ressemblait Jean-Baptiste? C'est par rapport à ce que donne la tradition, à une époque où on n'a pas d'appareil photo, où on n'a pas de moyen de conserver l'image de la personne, eh bien vous la décrivez. C'est exactement ce que fait la personne qui va auprès de la police expliquer qui était son agresseur. C'était un grand, il faisait au moins telle taille, il avait les cheveux comme ci, il était plutôt corpulent, il avait une tache là. Comme ça vous comprenez pourquoi quand on représente Saint Jean l'évangéliste, on lui fait toujours trois poils qui se battent en duel au milieu d'un front plutôt dégagé,
effectivement. Et là il y a une magnifique icône de Saint Jean.
On se rend compte que c'est lié vraisemblablement aux petits détails qui a dû frapper des contemporains et qui ont traduit. Il faut quand même pas oublier que la tradition orale a fonctionné très longtemps dans des groupes où la culture de l'écrit n'était pas partagée par tous. Est venu quand même le moment où on s'est dit il faut passer à l'écrit. On s'est décidé à écrire les évangiles, on s'est décidé à écrire les pères, ensuite se sont décidés à écrire ce qui leur semblait être la vérité sur l'histoire du Christ et tout, mais il a fallu se mettre d'accord parmi la multiplicité des écrits qui existaient, quels étaient ceux qui semblaient les plus vraisemblables à un moment, pour éviter les dérives hérétiques de tout genre.
D'accord. Mais il y a un intérêt à manifestement porter, par exemple, pour les figures telles que Anne et Joachim, qui sont peu connues, aux écrits apocryphes.
Aux écrits apocryphes, oui, les évangiles apocryphes ont été. Certains sont conservés par les orthodoxes qui n'ont pas été.
Autre point intéressant à mentionner, sans doute, c'est que, par exemple, si le saint est martyr, il est représenté avec...
Alors, on le représente en général avec la croix du martyr à la main.
Oui. Ou l'instrument
de torture.
Donc,
le simple fait de voir... Alors, bon, oui, parce que vous prenez Sainte-Catherine, effectivement, on peut la représenter soit simplement avec la croix du martyr, soit simplement avec la roue qu'on a utilisée, justement, pour son supplice. Mais il y a toujours le petit signe, ce qui fait qu'un orthodoxe qui va passer devant une icône est capable de la lire et donc de la décoder, de la comprendre. Alors que si on n'a pas cette culture-là, moi je sais que pendant des années, je ne l'avais pas cette culture et je ne comprenais pas ce que je voyais. Mmh. Et même les fresques, bien sûr, j'allais reconnaître une nativité ou un baptême, mais je n'allais pas reconnaître certains saints.
Oui, d'accord. Il y a leur nom souvent au-dessus de leur tête, pas toujours.
Oui, on indique toujours le nom.
Toujours.
Oui. D'accord. L'icône n'existe vraiment qu'avec ça, à partir du moment où les écritures ont été posées. Mmh. On ne laisse jamais le doute, quoi.